C'est parti pour le LEM, l'émission quotidienne de Transistor du lundi au vendredi. On retourne une quatrième fois cette saison chez Brin d'Éveil, l'école en forêt de Quimer, où viennent des enfants, mais aussi des parents.
LEM, l'émission, sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission, le magazine qui vous rafraîchit à l'ombre des arbres et au bord de l'eau. Le lieu dit le Stumalogona Quimer, c'est là que se trouve la Forest School, l'école en forêt. Vous la connaissez maintenant, on l'a reçue, on la reçoit encore chaque trimestre cette saison et sans doute la saison prochaine. Le but de cette série d'émissions, c'est bien de vous faire découvrir les vertus de cette éducation par la nature et dans la nature. Chez Brin d'Éveil, on accueille des enfants à besoins spécifiques, des petits qui ont des troubles du neurodéveloppement, comme le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, TDA, TDAH, ou des troubles du spectre autistique, ou encore des phobies scolaires, d'autres encore sans doute. Notre invitée, c'est la fondatrice du lieu, Tiffaine Gaillard, elle est éducatrice spécialisée. Elle ne travaille pas toute seule, elle est entourée d'une équipe de professionnels, éducatrices aussi, et de parents, c'est le sujet du jour. Bonjour Tiffaine.
Bonjour.
On va justement aborder une nouveauté, je ne sais pas si c'est lancé ou si ça va être lancé à Brin d'Éveil, mais c'est un groupe parents-enfants, c'est ça?
C'est ça, ouais.
Et alors pourquoi avoir voulu faire un groupe parents-enfants?
Alors déjà, moi personnellement, ça fait maintenant 8 ans que j'anime des groupes parents-enfants sur une autre forest school qui n'est pas spécialisée dans l'accueil des enfants avec des troubles du neurodéveloppement. Et du coup, j'avais aussi un peu l'envie de créer cet espace-là sur Pont-de-Buis, puisqu'il n'y a pas de groupe sur Pont-de-Buis et qu'il y a de la demande. Et puis, il y a aussi le retour de nos familles, parce qu'on en a déjà parlé. On a un certain nombre de familles et l'association, elle vit vraiment la pédagogie par la nature de base. Suit vraiment le rythme et les besoins de l'enfant, mais aussi des familles qui constituent l'association.
Oui, combien il y a de familles, si on peut chiffrer?
Oui, en nombre d'enfants, je ne pourrais pas te donner la totalité, parce qu'avec les structures, maintenant, on est quand même à pas mal d'enfants. On est sur, je dirais, 80-100 enfants dans l'année. Sur les familles régulières, on est à une vingtaine de familles et qui viennent de manière régulière, c'est-à-dire tous les mois ou tous les 15 jours, et des enfants qui viennent toutes les semaines. Du coup, ça fait une vingtaine de familles adhérentes. Et l'association vit vraiment à partir des besoins de ces familles-là. Donc l'association a toujours créé des propositions qui viennent répondre à ce qu'elles traversent. Parce qu'on a vraiment à cœur d'être là pour nos familles déjà présentes. Et que c'est un besoin qui remonte quand même beaucoup du terrain.
Oui, il y a une demande.
Oui, il y a une demande forte.
Parce que des groupes de soutien à la parentalité en général, il y en a. Hein, à Pont-de-Buis aussi, il y a des cafés papotes, des choses comme ça. Mais c'est la parentalité en général.
Alors oui, voilà. Et puis à la parentalité en nature, il n'y en a pas.
Non, ça c'est clair. Ouais.
Et à la parentalité sur l'accompagnement des enfants à besoins spécifiques, il y en a très peu finalement. Malgré que ce soit une recommandation de la Haute Autorité de Santé d'aller vraiment vers ça pour... En fait, c'est un des leviers les plus efficaces pour aider les enfants avec des troubles du neurodéveloppement. C'est vraiment aider les parents à comprendre le fonctionnement de leurs enfants, à leur donner les outils pour les accompagner avec ces particularités-là.
Donc, il y avait une demande, quoi.
Il y avait une demande à laquelle on répond déjà partiellement cette année.
Les parents, enfin dans le process, la procédure, ils restent pas forcément dans les séances. Au contraire, hein, ils laissent leurs enfants à Brin d'Éveil et puis ils reviennent après. C'est ça. Hein.
La proposition alternative cette année, mais qui n'a pas pu se généraliser parce qu'on n'a pas les fonds, tout simplement. C'était que pendant que les enfants étaient en séance, il y avait une éducatrice à mener un café parent. Donc déjà un petit intermédiaire où il y avait un espace une fois par mois pour un seul des groupes, parce qu'on n'a pas de quoi payer l'éducatrice sur les autres groupes.
Oui, c'est ça. C'est un métier. Hein.
Mais oui, c'est un métier. Et puis pour l'instant, c'est beaucoup des bénévoles aussi sur Brin d'Éveil. Et on ne peut pas leur demander d'être là à chaque fois qu'il y a un atelier avec des enfants pour s'occuper des parents. Il y a un espace avec café et livres pour qu'ils puissent attendre s'ils veulent. Mais la proposition, là, déjà cette année intermédiaire, c'était d'avoir un espace discussion avec une professionnelle spécialisée dans les troubles du neurodéveloppement. Et du coup, ces familles-là font remonter à un vrai besoin d'être accompagnées directement avec leur enfant et d'avoir un espace. Les besoins identifiés, je dirais, c'est vraiment d'avoir un espace offert pour redécouvrir un peu leur enfant sous un autre jour, sortir de ce quotidien souvent tendu, complexe et dans la lutte.
Ouais, parce qu'il faut expliquer ce que c'est être, enfin découvrir quand on est parent que son enfant est, a besoin spécifique, on va dire, parce que le groupe ne serait pas spécialement pour les enfants qui ont un trouble du neurodéveloppement ou un trouble du spectre autistique, si non.
Là, l'idée, c'est vraiment que c'est ouvert à tous, parce qu'il y a aussi la volonté de pouvoir accueillir d'autres familles du territoire qu'on n'accueille pas pour l'instant, parce que les groupes sont quand même très spécialisés. Mais on se donnera les moyens qu'il y ait un taux d'encadrement qui permette vraiment d'avoir l'espace pour parler avec les parents et les soutenir. Et puis, on en parlera tout à l'heure, il y a tout un tas d'outils spécialisés dans l'accompagnement parental à Brin d'Éveil, déjà. Et puis, il y a les apports de la pédagogie par la nature qui, déjà, permet de venir soutenir beaucoup de choses, notamment rien que le fait d'être en nature, on le sait bien, ça réduit le stress et ça permet d'être plus disponible et plus serein et plus régulé dans la relation à l'autre et donc à son enfant.
C'est ça.
Et réciproquement de l'enfant à son parent. Il y a aussi toute la partie du jeu libre qui permet d'expérimenter des choses. C'est aussi un espace que nous, on pense et on prépare pour favoriser les moments d'émerveillement avec les enfants, que les gens se rencontrent et puissent échanger entre eux aussi.
Oui, parce que quand on apprend ça, parfois, il n'y a pas toujours une structure qui va vous dire, bah oui, avoir un enfant qui a un trouble du neurodéveloppement ou un TSA, c'est ça, ça veut dire ça. Enfin, ouais. Pour rassurer, parce que finalement, c'est pas non plus la fin du monde, hein, pour l'avoir vécu, c'est vrai que la société est pas adaptée forcément, elle s'adapte qu'à des gens qui sont totalement dans le moule, mais on est quand même dans un pays où on peut trouver des moyens de vivre heureux et sans problème, quoi. C'est ce qu'il faut se dire aussi, c'est peut-être ça qu'il faut dire aux parents.
Ouais, il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis. Déjà, il y a effectivement souvent quand il y a le diagnostic, il n'y a pas l'explication de ce que ça peut vouloir dire. Et à Brin d'Éveil, on a et la compréhension fine de ces particularités-là et on n'en avait pas parlé jusque-là, mais on est une équipe qui valorise la paire aidance. C'est-à-dire que la majorité de l'équipe à Brin d'Éveil est soit parent d'enfant à besoin spécifique, c'est mon cas, soit elle-même avec des troubles du neurodéveloppement. Et là aussi, c'est mon cas, puisque j'ai un TDAH.
Elle sait vraiment quoi elle parle, pas de problème.
Et puis, une des spécificités de la pédagogie par la nature et de la paire aidance, c'est aussi d'être dans un accueil bienveillant, où on accueille les familles là où elles en sont, et où le besoin de chacun est vraiment au centre des propositions qu'on fera.
Ouais.
Ce qui peut, alors là je le dis en tant que paire aidante, ce qui peut manquer dans nos réalités institutionnelles, où on ne se le cache pas souvent dans les parcours diagnostiques avec nos enfants, la bienveillance, l'écoute et l'accompagnement doux de ce qu'on vit en tant que parent, c'est pas forcément au centre des priorités institutionnelles, en tout cas, parce qu'il y a des milliers de demandes, parce que ça va vite.
Ils n'ont pas les moyens, tout simplement.
Parce que c'est beaucoup des professions en souffrance aussi. Et pour le coup, pour nous, c'est vraiment le cœur de la Forest School, de prendre le temps d'accueillir, de comprendre et de soutenir.
Donc ce groupe parents-enfants, il a commencé, il va commencer, c'est ça? Comment il va se passer concrètement?
Alors, cette année, on avait proposé des ateliers ponctuels sur les vacances scolaires pour déjà voir s'il y avait des gens intéressés et puis pour proposer une découverte en douceur. Il y en aura un dernier début juin pour ceux qui veulent venir découvrir.
Ah oui, on peut encore venir.
Découvrir. Pareil, sur le vendredi de la deuxième semaine des vacances scolaires. C'est toujours sur ce créneau-là, avec ma collègue du coup qui anime les groupes avec moi.
Donc là, les vacances d'été.
Les vacances d'été.
Donc ça nous fait du 10 juillet par là.
Quelque chose comme ça. J'ai pas la date en fait. J'aurais dû regarder. J'ai perdu le fil, voilà.
Donc voilà, ça a déjà commencé, mais ça va peut-être changer de formule.
Oui,
à la rentrée,
alors du coup là, c'est vraiment ouvert tout public. Ce sera toujours ouvert tout public. Il n'y a pas besoin d'avoir un enfant diagnostiqué pour venir. Il n'y a pas besoin d'avoir un enfant avec un trouble du neurodéveloppement non plus. Ça peut être d'autres particularités et ça peut être juste l'envie d'être dans un espace, dans la nature, avec particulièrement un accompagnement confortable et soutenant. Dans toutes les Forest School, il y a plein de bénéfices à être en groupe par enfant. À Brin d'Éveil, en plus, il y aura un taux d'encadrement qui permette vraiment qu'on soit disponible pour rejoindre et les besoins et les particularités des enfants, et les besoins et les particularités des parents. Mais du coup, l'année prochaine, par contre, ce sera une inscription à l'année, ce qui permettra d'avoir ce qu'on aime bien en pédagogie par la nature, c'est-à-dire de la récurrence et de la stabilité, ce qui permettra que les parents s'entraident aussi entre eux, se connaissent, et que ce soit un groupe qui permette aussi un échange, du soutien dans le temps.
Ouais.
Et la récurrence. Qu'on connaisse bien les enfants.
D'accord. Et la récurrence, ça serait pareil pendant les vacances plutôt ou...
Eh ben non, l'idée là, c'est de proposer, selon le sondage qu'on a fait, ce qui revient, c'est plutôt un atelier le mercredi matin, une semaine sur deux. Voilà, ce qui ferait une quinzaine d'ateliers sur l'année.
Et avec un nombre, j'imagine, maximal de personnes pour que ça soit quand même gérable, c'est ça ? Combien de personnes ?
Oui, alors c'est ça la particularité. En général, sur les forest schools, on est à plus d'enfants et à moins d'encadrants. Nous, on vise maximum 12 familles pour qu'on puisse quand même se rémunérer, mais que ça fasse un professionnel pour 5-6 familles et peut-être même un bénévole en plus pour venir nous soutenir. Voilà, en gros.
Et alors, quels sont les outils, puisqu'on n'a jamais le temps de parler des outils dans cette émission. Là, on va prendre le temps pour justement voir qu'est-ce qui fonctionne pour ces parents qui ont des enfants qui les déroutent, on va dire.
Alors déjà, je pense que beaucoup de parents l'ont remarqué. Et là, s'il y a des auditeurs qui vont déjà dans des forest schools dans le Finistère, parce qu'on a la chance d'en avoir beaucoup.
Ah bon, on en a combien ?
On en a 6.
Ah oui, c'est pas mal.
Ah,
en effet.
6 et pas mal en cours d'émergence. Et c'est beaucoup plus que le reste de la France. Hein. On est les plus équipés en forest school de France.
Bravo à nous.
Ouais. Et puis des chouettes forest school en plus. Je vous invite à aller regarder sur le site du RPPN. Vous verrez toutes les forest school à disposition. Donc déjà, il y a tous les outils inhérents à la forest school. Donc comme on l'a dit, il y a la nature. Qui permet de diminuer les stress, qui permet aussi de diminuer la surstimulation sensorielle, parce que cette situation dont on a parlé la dernière fois, de nos enfants enfermés à la maison, qui surchargent des lumières, du son, ça met tout de suite les familles, les parents, les enfants en tension. Être dans la nature, sur l'hectare et demi de brin d'éveil, c'est pas du tout la même.
Et pourtant plein de stimuli, hein, mais c'est pas du tout les mêmes.
Oui, mais c'est des stimuli, on en a parlé sur l'intégration sensorielle la dernière fois, qui sont... Le cerveau humain est fait pour. C'est-à-dire que même en cas de... À part météo, là il peut y avoir surcharge, mais le bruit des oiseaux, par exemple, est un stimuli auditif structurant et apaisant. Pas le bruit dans un supermarché ou dans une cantine.
Ouais, tout à fait. Et donc ça, vous n'aurez qu'à réécouter les précédentes émissions qu'on a faites. Donc ça c'est quelque chose déjà de base qui fonctionne.
Ensuite, il y a la pédagogie des forest schools, qui est une pédagogie spécifique. On n'a pas pris le temps d'élaborer, mais qui repose sur un certain nombre de piliers, notamment l'horizontalité. Donc le fait que les parents et les enfants soient traités et accueillis de la même manière, que nous on prenne la même position et que nos propositions rejoignent toutes les formes d'intelligence et toutes les manières de fonctionner. Sur un atelier forest school, il y a toujours quelque chose à manger, quelque chose à boire, quelque chose pour créer, quelque chose pour bouger. Et une vigilance fine du pédagogue qui va voir s'il y a des besoins qui émergent pour que la fois suivante, il y ait de quoi nourrir. Soit les questionnements d'un parent, soit un besoin d'outils pédagogiques, soit l'accompagnement d'un comportement difficile d'un enfant. En tout cas, ça fait partie de la pédagogie en général, mais c'est encore plus important en brin d'éveil. Notre travail à nous, il est dans l'observation et l'analyse constante pour vraiment ajuster nos ateliers au fonctionnement de la dynamique de groupe, mais aussi au fonctionnement individuel.
Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, un brin d'éveil, même pour un enfant et un parent qui viennent juste d'arriver, il y aura des outils sur place, il y aura moyen quoi, en fait, de les recevoir.
Ah ouais, voilà.
Même si on ne les connaît pas encore, je veux dire.
Exactement, et même en amont, je veux dire, on a déjà des outils pour que les enfants arrivent sereinement. Typiquement, on met à disposition un petit guide des parents, où il y a tout bêtement, mais il y a un déroulé visuel avec des pictogrammes pour que les enfants avec autisme aient déjà une idée de ce qui va se passer dès le premier atelier. Et il y a une ritualisation avant et après qui permet aussi les transitions, ce qu'on sait être un point délicat pour nos enfants avec des troubles du neurodéveloppement.
On les balance pas tout de suite dans le truc, quoi, c'est ça ?
C'est ça. Et moi, je communique, j'appelle toujours les parents avant qu'ils viennent en atelier. S'il y a des enfants qui ont besoin, je fais aussi des reportages vidéo. Je présente visuellement, en vidéo, la forest school pour qu'ils aient déjà vu le lieu avant d'arriver, tu vois. Donc, avant de venir, effectivement, c'est déjà pensé. Et sur les premiers ateliers, tout notre job, c'est de créer un sentiment de confiance sur le lieu, de se l'approprier et de poser un cadre sécurisant et bienveillant entre les parents, avec nous et sur place. Et ensuite, il y a les outils, la paire aidance, comme j'ai dit, on n'y reviendra pas.
On s'aide entre pairs.
On s'aide entre pairs et on s'aide, nous, en tant que parents spécialistes de nos enfants et parents spécialistes des troubles du neurodéveloppement.
Et d'ailleurs, ça serait intéressant d'avoir dans ce groupe parents-enfants des différents degrés de, d'expertise plutôt.
Oui,
enfin,
et c'est ça. Et c'est toujours le cas. Ouais. Et ce que je te disais sur, sur l'horizontalité entre les participants, en fait, les espaces d'échange qu'on va créer, ça permet que chaque parent vienne amener les petits trucs qu'il a trouvés avec ses enfants qui marchent. Et en fait, on est tellement plus riche de l'intelligence collective, c'est vraiment...
Bah, surtout que ces troubles-là, finalement, il y a autant de manifestations de ces troubles que d'enfants.
Oui, absolument.
Donc, c'est pas évident, on peut pas dire, bah, tiens, ça va marcher, c'est sûr. Non, ça va marcher avec un enfant, mais pas avec l'autre.
Ouais, bah, c'est vraiment la posture de non-expert du pédagogue. Alors, on est expert sur certaines choses, mais en atelier... on n'est pas plus experts que les parents de leur enfant. Parce que, tous les parents qui ont des enfants à besoins spécifiques se sentiront concernés. Effectivement, nos enfants, on les connaît quand même bien intimement. C'est du quotidien. Et on a déjà fait l'expérience de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Et que c'est souvent compliqué d'entendre des professionnels nous dire « Oh, mais il faut faire ça !» Oui, bien j'ai sûr. Essayé, merci. Mais ça ne marche pas sur la mienne, pas voilà. De bol.
Et zut, c'est ballot.
Voilà. Mais du coup, il y aura aussi toute une partie outils spécialisés parce que l'équipe est formée à des techniques d'accompagnement, ce qu'on appelle les programmes d'entraînement aux habiletés parentales. Et j'en ai pas parlé. C'est une proposition qu'on a déjà sur Brin d'éveil actuellement. C'est-à-dire qu'en plus des cafés parents dont j'ai parlé et des groupes parents-enfants, les enfants qui sont accueillis sur l'association, on a à disposition la possibilité d'aller à domicile faire de l'accompagnement aux compétences parentales. Donc c'est déjà le cas d'un certain nombre de familles sur l'association. Et pour ça, on utilise ce qu'on appelle les PEHP, qui sont les programmes d'entraînement aux habiletés parentales.
Bien.
Typiquement,
ouais, des exemples, ouais.
Dans l'autisme et dans les TDAH, il y a un certain nombre de méthodes à laquelle personnellement je suis formée, nombreuse plutôt. Sur le TDAH, c'est la méthode Barclay qui est reconnue par la HAS, qui est une méthode où il y a une partie psychoéducation, donc accompagnement du parent à comprendre le cerveau de son enfant et pourquoi. Mais pourquoi il fait des crises comme ça? Et pourquoi il ne peut pas écouter? Et pourquoi? Voilà, il y a toute cette partie-là. Et ensuite, il y a toute la partie accompagnement en analyse fonctionnelle. Moi, je suis formée depuis 10 ans en analyse fonctionnelle.
C'est quoi?
C'est le fait de ne pas prendre un comportement comme étant une défiance, mais plutôt d'aller analyser les causes du comportement et du coup, d'apprendre à regarder qu'est-ce qu'il nous dit, ce comportement. Parce qu'en général, il ne dit pas « Maman, tu m'enquiquines ». En général, il dit « Maman, il y a un problème
». Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, parce qu'en fait, il ne faut pas le prendre pour ça, pour soi. C'est ça, en fait, le premier conseil qu'on peut donner aux parents, c'est... Voilà.
Bah, ouais, mais en même temps, quand on est lâché avec des enfants qu'on ne comprend pas, nécessairement, on finit par douter de nos compétences. Et le but du programme Barclay, c'est vraiment de venir remettre un sentiment de compétence parentale, c'est-à-dire de venir donner aux parents les moyens de voir qu'ils ont plein de compétences et aller un peu à l'inverse de ce truc institutionnel de « Oh, bah, si ça ne marche pas, c'est peut-être le parent qui ne fait pas son job. » Le but de la méthode Barclay, c'est de partir de tout ce qui va bien chez l'enfant et chez le parent et d'aller, on dit, renforcer ça dans le langage professionnel, c'est-à-dire, au lieu de se fixer sur ce qui ne va pas, aller aider à développer tout ce qui va et du coup développer des comportements alternatifs, c'est-à-dire remplacer les comportements qui nous posent difficultés, typiquement la violence, par des comportements adaptés qui répondent aux besoins des enfants.
Genre du sport peut-être, tout simplement, enfin, je ne sais pas.
Oui, mais en fait, y a, dans beaucoup de cas, quand il y a violence, c'est parce que c'est des enfants qui n'ont pas encore trouvé comment exprimer le vrai besoin qu'il y a derrière. Et du coup, l'analyse fonctionnelle permet de comprendre quel était le besoin à la base qui crée cette violence et comment on peut enseigner à faire une demande correcte plutôt que de passer par l'explosion et le chantage et la menace et la violence comme ça peut être le cas dans certaines familles.
Est-ce que c'est une méthode qui intègre alors là l'environnement là pour revenir à dehors dedans est-ce que par exemple on peut aller chez les parents voir comment est l'environnement immédiat de l'enfant physique hein, l'environnement par la maison l'aménagement j'en sais rien est-ce qu'il y a un jardin pas de jardin et justement faire un bilan là-dessus.
Ouais, et ben tu vois dans le TDAH, il y a pas forcément ça et personnellement moi je trouve que ça peut manquer. Parce que
Dans la méthode Barclay.
Dans la méthode Barclay, ça peut être en visio, ça peut être en groupe en visio, et du coup, il n'y a pas du tout cet accompagnement dans la réalité de l'enfant. Et moi, de base, mon militantisme depuis 15 ans va justement sur... C'est bien de dire aux parents quoi faire, mais sans y aller. Comment on sait, en fait,
c'est ça.
Ce qui s'y vit et dans le cadre du TSA, c'est particulièrement essentiel, puisqu'en réalité, il faut peu de choses, parfois, de structuration de l'environnement pour que leur réalité soit moins anxiogène et stressante. Ouais. Et du coup, ça suffit parfois à désamorcer beaucoup de crises.
Genre mettre un rideau supplémentaire dans la chambre, un truc tout bête quoi. Hein,
Ou avoir une petite structuration visuelle de ce qui va se passer dans la journée. Voilà, moi, je suis... Du coup, dans les outils, on peut continuer. On est aussi formé à tout ce qui est Teach, donc la structuration visuelle.
C'est quoi
Alors, Teach, bon, je vais peut-être pas te faire le déroulé de chaque formation, sinon...
Mais qu'est-ce que ça veut dire, quoi?
Alors, le T-E-A-C-H-H, je ne saurais même pas te le redire. En gros, c'est une des approches sur l'autisme qui part plutôt sur l'aménagement et la présentation des choses et la structuration du temps et de l'espace.
De l'enfant.
De l'enfant. Du coup, c'est à domicile. Mais ça peut être dans les structures aussi. De la même manière, je suis formée en CAA. Tu as déjà entendu
non,
CAA ?
Non, pas du tout.
Communication alternative et augmentative. C'est le fait de considérer que nous, humains, on ne communique pas que par les mots.
Oui.
Et que nos enfants, potentiellement, pas du tout. Et que du coup, passer par du plurimodal, c'est-à-dire utiliser tous les sens pour communiquer, ça permet à beaucoup plus d'enfants d'entrer dans la communication. Typiquement, à Bain d'éveil, on parle en réfléchissant aux mots qu'on emploie, mais il y a aussi un grand tableau de communication visuelle, donc avec des pictogrammes. Il y a également des objets de communication. Je signe aussi les mots principaux, ce qui permet à...
En langage des signes français, en LSF?
Alors non, en macathon. Le macathon, c'est un outil de la CAA, justement, c'est les mêmes signes qu'en baby signe, en fait. La LSF est une langue complexe, qui n'est pas accessible à tous et qui est nationale. À l'inverse, le macathon est une langue internationale avec des signes simplifiés que même les enfants avec des difficultés de motricité peuvent faire.
Ah, oui.
Et c'est multimodal, c'est-à-dire qu'il y a le signe, on parle en même temps, donc il y a le verbal en même temps, et il y a l'image en même temps. Donc il y a les trois canaux, le physique, le visuel et l'auditif.
Il pourrait y avoir autre chose, je sais pas, l'olfactif. Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces enfants, ils peuvent être sensibles à des trucs qui nous échappent.
Et c'est pris en compte. Par exemple, tu vois, le signal, on a un signal auditif de rappel aussi quand on doit se regrouper. On a un objet de transition qui permet d'avoir quelque chose
du
à
toucher.
Tenir.
Ah ouais, aussi, c'est ça.
Moi, j'ai des verres avec les pictogrammes dessus et je mets les objets verre d'eau et fourchette à disposition pour que si un enfant a besoin d'aller chercher l'objet qui correspond à la demande, ce soit pensé. Ça, c'est des outils qu'on a sur Brin d'éveil et dont certains parents peuvent bénéficier, qui permet de diminuer le stress chez les enfants, qui vont du coup aller vers leur canal de communication préféré. Mais alors, ce qui est bon à savoir, c'est que quand on stimule un canal de communication, ça stimule tous les autres. Donc, si on a des pictogrammes et qu'on passe par les pictogrammes, ça ne va pas réduire le langage verbal.
Ouais, c'est pas,
ça va aider à construire la pensée verbale et ensuite aller vers du verbal.
Il ne faut pas s'en inquiéter. Ou même faire dessiner un enfant, ce n'est pas un problème. Ça ne va pas l'empêcher d'écrire.
C'est une critique qui a pu être faite.
D'accord.
Voilà. Y a aussi l'approche Chacat. Enfin, on est formé à beaucoup d'outils sur la communication. Sur la guidance parentale spécifiquement, il y a donc le PHP Barclay. Moi, je suis formée à la méthode REACT. Est-ce que tu as déjà entendu la méthode
REACT ? Ça me dit quelque chose.
La méthode REACT, c'est une méthode spécifique pour ce qu'on appelle les enfants tyrans.
Wow.
Le mot est dur, mais en fait, c'est parce qu'on y met plein de choses. Ça a une définition spécifique, les enfants tyrans. Les enfants tyrans, c'est des enfants qui ont souvent plusieurs pathologies associées et qui sont rentrés dans une dynamique familiale de répondre à leurs besoins par la peur. Ce qui définit une famille en situation réacte, typiquement, c'est des parents qui sont dans une telle situation de violence qu'ils n'osent plus en parler à l'extérieur et que du coup, ils se retrouvent enfermés à la maison dans une espèce de zone de non-droit où ils ont tellement peur de la crise violente qui va arriver que c'est plus possible de dire non.
Ah ouais, c'est ça, d'accord.
C'est pas que c'est des parents... Souvent, c'est des parents qui étaient très en capacité de poser un cadre éducatif à la base, hein, mais qui, face aux difficultés de fonctionnement neurologique de leur enfant...
Ils sont usés, quoi.
Ont peur.
Ouais, c'est que, ça. Ils ont renoncé
à... Moi, je peux te dire, sur Brin d'éveil, les familles... enfin, même personnellement, les familles avec des enfants qui peuvent avoir des actes violents qui nous mettent en souffrance... on est plus nombreux que ce qu'on croit, mais c'est tellement pas parlé, c'est tellement un tabou, que finalement, ça, le réflexe, ça peut être de « j'en parle pas parce que ça va être de ma faute ».
Ah oui. Cette méthode, elle fonctionne.
Et bah, dans des situations de famille où il y a des parents fatigués ou avec des maladies associées en plus, tu vois, qui ne peuvent pas ne pas céder quand on les menace de leur balancer une chaise à la figure ou de leur...
Surtout si l'enfant
avec,
grandit.
Ou avec un couteau, on est d'accord. Hein. C'est une des seules méthodes pensées pour faire quelque chose dans ces cas de figure-là. Donc c'est une approche spécifique, vraiment pour ce profil-là de je vis une violence extrême et je veux même plus en parler et c'est devenu invivable à la maison.
Donc il faut la connaître.
Mmh. Et j'invite les gens à aller voir sur Internet, elle est très bien foutue, il y a des associations de soutien et c'est une définition très précise, les enfants tyrans, c'est pas juste les enfants qui font ce qu'ils veulent à la maison. Voilà, et sur l'autisme, il y a aussi, moi je suis formée avec, enfin je suis formée et supervisée avec Abéa Play sur la méthode RDI, qui est une autre approche de la relation dans l'accompagnement des enfants autistes, qui rejoint beaucoup ce qu'on fait en pédagogie par la nature. Il s'agit beaucoup d'apprendre à observer les signaux fins de communication de nos enfants qui ne savent pas bien communiquer et de les aider à en faire des comportements de communication qui marchent avec tout le monde. Ouais.
Classique.
Voilà.
Très bien. Bon, voilà, c'est déjà la fin de l'émission. Donc, ça veut dire qu'on est quasiment condamnés à se retrouver la saison prochaine,
Tiffaine.
Bon, alors, vous allez sur le site internet de Brin d'Éveil, en tout cas, pour en savoir davantage sur ces groupes parents-enfants et vous inscrire, le cas échéant, déjà à la dernière séance de juillet pour voir.
C'est pas encore ouvert pour le groupe de l'année prochaine.
Et voilà, après.
Mais on ouvrira après. Et du coup, on sera deux éducatrices spécialisées sur ce groupe. On n'a pas eu le temps de le dire avec ma collègue Julie Creuset, qui est également. Très compétente sur le sujet.
Merci beaucoup, Tiffaine. À la saison prochaine.
À la
Bonne
saison
été.
Prochaine. Merci.
Au revoir.